La première lecture est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, les versets 10 à 19. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur, à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint. Il se tenait là et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui. Et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
Merci Hélène pour cette lecture du Premier Testament. Et nous allons entendre maintenant Alexandrine qui nous partage l'évangile de ce jour.
Évangile de Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu l'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. »
Thank you.
Merci, ça donnait envie de chanter. Avez-vous goûté ces paroles, cette musique et les paroles qui les ont précédées? Quel goût ont-elles, ces paroles, pour vous? Ce n'est pas toujours simple de goûter, de savoir comment on les perçoit, comment, quel goût elles ont en nous. Puis on dit, vous savez, les goûts et les couleurs, ça change d'une personne à une autre, voire d'un moment à l'autre. Il y a des choses que j'aimais pas quand j'étais petit. Le céleri, j'aime pas, toujours pas terrible, mais bon. Mais le café, les huîtres, un grand Bourgogne, tout ça, je ne goûtais pas ça tellement quand j'étais enfant. Maintenant, j'apprécie énormément. Cela dépend de tellement de choses. Notre goût, ça dépend de ce qu'on vient de manger avant. Ça dépend si on est affamé ou un peu repu. Ça dépend si vous avez l'habitude de manger des produits frais ou plutôt de la nourriture industrielle. Ça dépend si on vous a appris à aimer cuisiner. Si vous êtes issu plutôt du nord ou du sud. Si vous êtes plutôt cuisine au beurre ou cuisine à l'huile. Si vous êtes... ou encore, il paraît qu'il y a des coins où on fait tout à la graisse de canard aussi. Si vous êtes habitué aux épices, si vous êtes d'Orient ou d'Occident, si vous êtes végane ou carnivore, tout cela change votre goût. Nos sens ne réagissent pas de la même manière d'une personne à l'autre. C'est vrai pour le goût et c'est vrai aussi pour les sons. Il paraît même qu'il y a certaines longueurs d'onde que l'on n'entend plus à partir d'un certain âge. Et en fait, les médecins nous disent que ça commence tôt. Et je vous inviterai, une fois que vous serez rentré chez vous, à taper sur YouTube « test d'audition pour les jeunes ». Alors, ça commence, il y a toute une part de sons qui sont audibles que jusqu'à 18 ans. En dessus, on n'entend pas. Donc, tous ceux qui ont plus de 18 ans, déjà, vous êtes trop vieux. Et puis, il y en a d'autres qui, ça tourne à 20, 22 ans, 24 ans, 25 ans. Et j'étais assez affolé quand j'ai fait le test parce que ça compartimente beaucoup comme ça. Alors j'ai vu passer les 30 ans et je n'ai rien entendu. J'ai vu passer les 40 ans, je n'ai rien entendu. Et il y a un endroit, il y a écrit jusqu'à 49 et j'ai à peine entendu. Et puis il y en a un autre, c'est jusqu'à 50 et là j'entendais. Et j'étais rassuré. Mais ça a continué après. Voilà. Mais il y a quand même certaines longueurs d'onde qui sont, paraît-il, audibles, tout âge confondu. Mais quand même, c'était une expérience, et je vous invite à la faire vraiment, une expérience assez troublante, pas très agréable de se dire, bon sang, tout ce que je ne peux plus entendre. Et puis, quand on entendait le son en question, c'était désagréable en fait, ça faisait un genre de sifflement pénible. Donc, arrivé à la frontière 49-50, j'étais pas tellement plus heureux d'entendre les sons qui m'étaient proposés à l'oreille parce que c'était un sifflement désagréable et pénible. Et vous savez même que il y a un Anglais qui s'appelle Stapleton qui a créé ainsi un son dissuasif pour la jeunesse, qui est diffusé dans certains quartiers de villes anglaises, dans des endroits stratégiques où on n'a pas envie que les jeunes s'attroupent. Alors, on diffuse ce son-là. Les vieux, comme nous, n'entendons rien. Mais par contre, les jeunes, c'est tellement insupportable qu'ils vont ailleurs. Vous rendez compte, ça? Un son anti-jeune. Parfois, je me demande si les paroles qu'on dit sont à cette longueur d'onde-là. Si c'est à ce point-là insupportable, ou bien qu'on ne les entend pas. Est-ce que parfois la parole de la Bible a une longueur d'onde, soit elle est inaudible, soit elle est insupportable. Peut-être. Aujourd'hui, je vous invite quand même à essayer d'entendre quelque chose dans ces deux textes, à ne pas fuir pour autant. Écoutez à la suite du petit Samuel, à la suite des tout premiers disciples de Jésus, qui tous, quel que soit leur âge, semble avoir non seulement entendu, mais également répondu à l'appel de Dieu le jour où celui-ci s'est fait entendre à leur cœur. Je vous invite à être attentifs à tout ce qui nous est donné pour finalement être des antennes, d'être des êtres humains capables de réception. Dieu nous a dotés d'au moins 5 sens. Et c'était sans doute le minimum pour ne pas passer à côté de sa parole qui veut s'adresser à toutes les dimensions de notre être. Notre intelligence, nos émotions, mais aussi notre faculté de nous émerveiller, notre faculté d'agir, de réagir, notre capacité d'attention, d'amour, d'abnégation, de révolte et de contemplation. Dans l'Évangile, s'il est question souvent d'entendre, il est aussi souvent question de voir et de reconnaître. « Venez, dit Jésus, et voyez » au premier candidat disciple. Et de fait, l'Évangile commence par la prédication d'un homme, Jean le Baptiste, qui, le premier, a su voir dans la foule celui que personne n'avait remarqué jusque-là. « Il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas, quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il y a quelqu'un qui passe inaperçu aux yeux de tout le monde et qui est pourtant, que moi je vois, dit Jean, comme l'agneau de Dieu. Celui qui va porter dans sa vie, par ses paroles, par les gestes qu'il pose, tout le salut, toute la libération des hommes et des femmes. Quel genre de lunettes avait Jean le Baptiste pour voir cela, pour reconnaître cela? Qu'est-ce qui fait que moi, je ne vois qu'un homme, une femme, une fille, un garçon banal que je ne distingue de personne dans la foule? Et qu'est-ce qui fait qu'un autre va y reconnaître son propre fils, quelqu'un de particulièrement doué pour la tchatche et la répartie ou pour le football, quelqu'un de fiable et de digne de confiance, quelqu'un qui sait rendre heureux les gens qu'il croise, quelqu'un capable d'empathie, de comprendre les autres? Qu'est-ce qui fait qu'on peut voir au-delà des apparences? On ne goûte pas toujours les mêmes choses, on n'entend pas forcément, on ne voit pas forcément toujours les mêmes choses, on ne discerne pas toujours ce qui est au fond du cœur des gens. Alors la première chose que j'entends à la lecture de ces textes, eh bien c'est qu'en général, nous avons besoin les uns des autres pour reconnaître l'essentiel, pour reconnaître la valeur des gens et pour discerner la réalité d'un appel. Si les premiers disciples n'avaient pas entendu Jean parler de Jésus comme l'agneau de Dieu, quelque chose qui était étonnant de dire cela de quelqu'un qui est au milieu d'une foule, qui fait ce que tout le monde fait, il vient se faire baptiser. Certainement, les premiers disciples n'auraient jamais suivi Jésus. Jésus était venu tout simplement, perdu dans la foule, un baptisé parmi d'autres anonymes, rien d'extérieur pour le distinguer. Personne n'avait jamais rien remarqué à son sujet avant que Jean, soudain, le voie avec un regard neuf. « C'est un homme comme tous les autres ?»« Non, dit Jean. C'est l'agneau de Dieu. » Avant de se mettre en route à la suite de Jésus, avant de voir par eux-mêmes, de venir et de voir par eux-mêmes où il est, où il demeure, et où il nous mène, les premiers disciples ont su d'abord écouter quelqu'un d'autre. Et le vieux prophète Élie qui dort la nuit, pendant que Samuel, lui, a une oreille qui est sensible à une certaine longueur d'onde et qui se laisse réveiller par l'appel du Seigneur, Élie, le prêtre vieillissant, à qui Dieu ne parle plus guère, le vieil Élie qui semble devenu sourd, va pourtant jouer un rôle décisif pour le petit Samuel. Si tu entends quelque chose, si tu entends Dieu t'appeler par ton nom, Alors, oui, Samuel, tu peux répondre. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Et là, évidemment, il y a un petit clin d'œil parce que le prénom de Samuel, il porte tout cela dedans. Il y a le El qui dit Dieu, il y a le Sam ou le Sem qui dit le nom, mais aussi le S qui ressemble tellement au che, et donc il y a aussi le chemin et l'écoute. Tout cela est dans le nom de Samuel, le nom, l'écoute et Dieu. Et le vieil Élie qui est sage, qui est instruit, même si ses oreilles ne fonctionnent plus très bien, le vieux Élie devine tout cela et donne de bons conseils au jeune Samuel pour découvrir à son tour le sens de sa vie. Dieu aime appeler les êtres humains individuellement, mais j'ai l'impression qu'il aime le faire en passant par le collectif pour nous donner d'entendre et de comprendre ses appels au cœur de notre vie. Et c'est en soi déjà toute une leçon. La foi est certes une affaire intime, personnelle. Personne ne peut en juger pour l'autre. Il n'y a pas deux histoires identiques. Il n'y a que des personnes uniques avec qui Dieu tisse une histoire unique. C'est vrai. Comme il est vrai aussi que souvent, nous avons besoin d'un autre pour reconnaître le Christ dans la foule des anonymes, pour reconnaître sa voix au cœur de la nuit dans le silence. C'est vrai dans notre vie, c'est vrai aussi dans l'Église. On a bien besoin d'être plusieurs pour discerner dans quelle direction nous devons marcher. C'est pour cela que l'on a un conseil de paroisse, c'est pour cela que l'on a des moniteurs, des équipes d'animation, de cathé et d'écoles bibliques. Et c'est pour cela aussi que nous avons besoin de partager les uns avec les autres entre frères et sœurs. C'est aussi pour cela que les églises elles-mêmes ont besoin les unes des autres si elles veulent être fidèles à l'appel du Christ. Franchement, comment les protestants pourraient-ils prétendre être chrétiens sans les orthodoxes, sans les catholiques, sans les évangéliques, sans les pentecôtistes, sans les coptes, sans les arméniens? Bien sûr que nous avons des sensibilités différentes. Nous n'entendons pas tout à fait les mêmes choses. Le regard que nous portons sur le monde et sur ses défis, sur les questions de société, nous semble différent. C'est vrai. Et en même temps, je suis convaincu que nous ne pouvons pas nous passer les uns des autres si c'est bien la voix du Seigneur que nous cherchons à entendre et l'appel de Dieu pour notre vie. Demain, nous serons le 18 janvier. Le 18 janvier, chaque année, c'est le jour où commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et je crois que c'est d'abord cela que nous sommes invités à entendre dans les textes de ce jour. Dieu nous appelle à son service. Jésus nous invite chacun à le suivre, mais le plus souvent, il choisit de passer par la médiation des autres. Et c'est heureux, car du coup, nous prenons conscience que dans le domaine de la foi, en particulier, il n'y a pas de self-made man, ni de self-made woman. Personne ne se fait tout seul. Cela passe toujours par des médiations humaines, toujours par des rencontres, toujours par des étonnements dans un échange. On n'est jamais chrétien tout seul, on a besoin des autres. On est toujours au bénéfice, on profite de la vision, de la capacité d'audition, de l'histoire, du goût de la personne que tous les autres reçoivent et comprennent pour pouvoir à notre tour recevoir un peu du don de Dieu. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Oui. C'est bien, deux, c'est pas mal. Moi aussi, je suis convaincu de cela, c'est sûr. Est-ce que c'est une évidence pour tous? Peut-être, et c'est parfait si c'est le cas. Alors si c'est évident, il nous faut en tirer les conséquences. Si nous pensons vraiment que nous avons besoin, que nous avons un besoin vital les uns des autres, que nous avons besoin de la foi des autres, de la sensibilité des autres, de la particularité et de la personnalité des autres, alors cela suppose que nous fassions quand même un petit effort pour prendre le temps de les connaître un peu en profondeur, ces autres. Que connaissez-vous de la foi, de la prière, de l'espérance des uns des autres? À commencer par la personne qui est assise à côté de vous sur votre banc ou derrière vous, à un, deux rangs derrière. Est-ce que vous savez vraiment ce qu'est la foi pour un chrétien apostolique arménien? Ce que cela représente pour lui dans son histoire personnelle et collective? Celle d'un chrétien charismatique, pentecôtiste, catholique? Je ne vous parle pas là de généralité ou de caricature comme celle qui veut que tout bon protestant luthéro-réformé est forcément un intellectuel exigeant, rigide, sévère, austère comme des jours sans pain, sans parasol et sans rayon, poil au menton. Est-ce que vous avez déjà parlé avec l'un d'entre eux de ces chrétiens d'autres cultures que la nôtre? Est-ce que vous avez déjà partagé ce qui le fait vibrer, de quelle manière il prie, pas seulement quand il va à l'église, selon sa liturgie, mais encore quand il est seul ou qu'elle est seule dans sa chambre, dans le secret? Est-ce que vous avez parlé avec eux de leurs peurs, de leurs questions, de ce qui les choque, de ce qui les passionne? Est-ce que vous les avez déjà entendus parler de la manière dont ils lisent la Bible, de la manière dont ils comprennent le commandement d'amour et le vivent, de la manière dont ils essayent de faire de l'espérance de l'Évangile et du royaume la ligne d'horizon de leur jour? Si vous l'ignorez encore, si vous ne l'avez jamais fait, ou il y a fort longtemps, alors il y a urgence à se risquer à le faire. Car sinon, la caricature que les gens qui ne vous connaissent pas se font du bon protestant que vous êtes va se vérifier. Des gens qui certes ont des grosses têtes, pleines d'idées, mais pas forcément le corps qui va avec, pas forcément les sens qui vont avec, qui sont très forts pour débattre, mais quand il s'agit de se mettre à l'écoute ou d'être dans une mise en pratique, c'est une autre paire de manches. On a souvent tendance à penser qu'un dialogue sera réussi à partir du moment où l'on aura un petit peu convaincu l'autre, que l'œcuménisme serait une chance s'il aidait les catholiques, les orthodoxes, les évangéliques et les coptes à devenir un peu plus réformés ou un peu plus luthériens. Aïe, aïe, aïe. Comme nous sommes incorrigibles. J'aime ces textes de l'Évangile où c'est en accueillant la parole d'un autre, en lui demandant vraiment conseil, en s'ouvrant à une réalité que nous ne serions pas capables de saisir tout seuls, que des personnes ont pu recevoir une parole de Dieu pour leur vie. Cela devrait nous pousser, je crois, à être d'abord infiniment attentifs les uns aux autres, et aussi reconnaissant, infiniment plus reconnaissant pour la diversité, pour la complémentarité. C'est vrai, il y a des temps de notre vie où nos oreilles deviennent moins fines que celles des jeunes, et c'est aussi le moment où l'on a acquis peut-être un peu d'expérience et de sagesse que l'on peut partager justement avec les plus jeunes, donner un conseil, aider à discerner un appel, un service. Oui, j'entends dans ces textes un appel à être attentionné, attentif, reconnaissant. J'entends aussi un appel à la confiance véritable, spécialement quand peut-être nous passons par des temps de découragement et parfois de désespoir. Personne n'a jamais eu à lui tout seul la capacité de tout voir, de tout comprendre, d'entendre, de saisir, à coup sûr. Quel est le chemin qui doit nous mener à la vie ? Nous sommes toutes et tous plus ou moins bigleux, sourds, enrhumés, avec le nez bouché, le palais sec, incapables de saisir l'infinie variété des odeurs et des saveurs. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Car ce sont précisément nos manques et nos facultés défaillantes qui nous font avoir besoin les uns des autres, qui nous rapprochent les uns des autres, qui nous font nous tourner les uns vers les autres, entre générations, entre églises, entre personnalités différentes, entre sensibilités distinctes. Quand on vit cela, alors on réalise que non seulement notre vie prend un nouveau sens quand nous pouvons entendre pour nous-mêmes l'appel de Dieu, mais qu'il y a également beaucoup de sens à devenir, à un moment ou à un autre, eh bien, celui ou celle qui, par le partage de son expérience, par un conseil, par son enthousiasme, par ses questions, peut aider un autre à entendre, à saisir l'appel de Dieu pour sa vie. Ainsi que non seulement ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, mais aujourd'hui, que ceux qui entendent des fréquences inaudibles aux autres nous racontent ce qu'ils entendent. Que ceux qui ont appris par la vie à voir les choses avec plus de hauteur et de perspective, mais aussi ceux qui ont appris à contempler de plus près les détails des choses avec attention et affection, qu'ils le disent, qu'ils le parlent, qu'ils nous le transmettent. Que ceux qui ont cultivé, par tant de rencontres et d'expériences, la sagesse de discerner la saveur unique et reconnaissable entre toutes de la voix du Seigneur, de ce qui nourrit vraiment une vie. Bref, toutes ces belles facultés de réception si variées que nous avons les uns et les autres, ne les gardons pas pour nous seuls. Partageons-les avec les autres, avec les capacités, les facultés, l'expérience les uns des autres. Alors nous ne passerons pas à côté d'une voix qui nous souffle au cœur de la nuit, notre nom, qui nous appelle. Nous ne passerons pas à côté, au milieu d'une foule, de la présence de celui qui est devenu pour nous le Seigneur d'humanité, qui nous invite à marcher sur des routes nouvelles, à visiter des voies inconnues au cœur même du monde. Alors cela nous ouvrira un chemin d'avenir, une voie d'espérance. Et c'est là tous mes vœux en ce début d'année pour chacun de nous, pour nous comme Église, au singulier et au pluriel. Amen.